VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 9 mars 2021. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Sénégal, le mouvement de contestation a suspendu ses manifs suite au discours d'apaisement du président Macky Sall. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara a remporté la majorité lors des élections législatives de samedi dernier. L'armée camerounaise dit avoir arrêté un redoutable chef rebelle qui opérait en zone anglophone. Au Tchad, l'opposant Yahya Diallo, qui vit en cachette depuis l'attaque meurtrière de sa maison en N'Djamena, va s'exprimer en exclusivité dans cette édition. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir au Sénégal. Le mouvement pour la défense de la démocratie, qui avait appelé à manifester massivement jusqu'à mercredi, a suspendu son mot d'ordre. Un juge a relâché l'opposant Ousmane Sonko et le président Macky Sall a tenu hier un discours d'apaisement. Le point avec Nani Talani.
Les manifestations prévues les 9 et 10 mars sont suspendues, a déclaré dans un communiqué le mouvement qui inclut PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, des partis d'opposition et d'autres organisations de la société civile. Le mouvement pour la défense de la démocratie ou M2D devait annoncer son plan d'action et un nouveau mot d'ordre concernant la date, le lieu et la forme des prochaines manifestations. Cette suspension intervient au lendemain de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et de l'allocution du président Macky Sall appelant à l'apaisement après les violentes émeutes qui ont suivi l'arrestation de Sonko. Il y a eu 5 morts. Ousmane Sonko a été libéré mais est placé sous contrôle judiciaire et reste inculpé pour viol. Il est visé depuis février par une plainte pour viol déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. L'opposant crie au complot pour l'écarter de la prochaine présidentielle, ce que réfute Macky Sall, le président sénégalais.
Le collectif sénégalais de contestation, Mouvement de défense de la démocratie, M22, a justement appelé ce mardi à des manifestations pacifiques à Dakar et dans tout le pays samedi pour réclamer la libération des prisonniers qu'il qualifie de politiques. Dans un communiqué lu devant la presse, le M2D a aussi appelé à une journée de deuil national la veille, vendredi, en hommage aux 11 personnes tuées, selon lui, dans les troubles qui ont eu lieu la semaine passée, les plus graves qu'ait connues depuis 2012, ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara a remporté la majorité lors des élections législatives d'après les résultats officiels proclamés par la commission électorale. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le RHDP a remporté 137 des 254 sièges contre 91 pour les partis d'opposition selon les résultats publiés par la commission électorale. La coalition formée par le PDCI, parti de l'ancien président Henri Konan-Bédié, et des partisans de Gbagbo a remporté 50 sièges. Le parti au pouvoir l'a emporté dans la grande commune populaire d'Abobo à Abidjan et s'empare de plusieurs anciens fiefs du PDCI, dont la capitale administrative Yamoussoukro et Grand Bassam. Le taux de participation est de 37,88%, le même que lors des dernières élections législatives de 2016. Le PDCI dénonce des fraudes et des inversions des résultats dans plusieurs circonscriptions et a annoncé des recours. Le FPI a de son côté appelé ses partisans au calme. Les élections de samedi ont réuni pour la première fois depuis 10 ans l'ensemble des principaux acteurs politiques. La présidentielle d'octobre 2020, qui a permis à Alassane Ouattara d'être réélu pour un troisième mandat, a été boycottée par l'opposition et a été marquée par des violences qui ont fait des dizaines de morts.
6 personnes soupçonnées de kidnapping ont été lynchées par des habitants en colère après l'enlèvement d'une fillette dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi de sources locales. Au total, 8 kidnappeurs présumés avaient été arrêtés, mais 2 autres ont pris la fuite. La bande exigeait 10 000 dollars pour libérer l'enfant qui n'a pas encore été retrouvé. Les cas de kidnapping sont régulièrement rapportés dans cette partie de la province du Nord Kivu. À appelé le territoire de Masisi. 16 personnes, dont un médecin, ont été condamnées à mort en leur absence pour l'assassinat en 2019 d'un médecin camerounais engagé dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. L'épidémiologiste camerounais Richard Valéry Moussoko Kiboum, employé par l'Organisation mondiale de la santé, avait été tué par balle le 19 avril 2019 lors d'une réunion de travail dans un hôpital à Butembo, l'un des épicentres de l'épidémie qui a tué plus de 2200 personnes entre août 2018 et juin 2020. Dans le centre du Nigeria, au moins 25 personnes ont été enlevées hier par des hommes armés qui ont attaqué deux villages de l'État du Niger. Ils ont d'abord envahi le village de Koutoukou, puis celui voisin de Hadidi. Dans ce même État du Niger, un gang a attaqué mi-février une école, kidnappant 42 personnes, dont 27 enfants. Les otages ont été libérés 10 jours plus tard. Au Cameroun voisin, un des redoutables chefs de bande armée en zone anglophone a été interpellé ce matin par les forces de défense. De sources militaires, celui qui se faisait appeler général Nokia of Konye est tombé entre les mains des militaires camerounais lors d'une opération de ratissage. Plus de détails à Yaoundé avec d'autres correspondants, Emmanuel Juntap.
C'est dans son bastion de Koyé, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun, que le chef séparatiste armé, surnommé général Nokia of Konye, a été interpellé. De sources sécuritaires, il est connu comme l'un des principaux chefs de bande armée dans les deux régions anglophones, en crise depuis 5 ans. De nombreux crimes et exactions sont attribués à ce chef de milice, notamment le kidnapping en mars 2020 des conseillers municipaux de la commune de Konye dans la région du sud-ouest. Ces derniers avaient été détenus, torturés puis libérés après versement d'une rançon au bout de 15 jours. Mais les ravisseurs en guise de représailles ont coupé le doigt de l'un des otages. L'armée annonce aussi avoir arrêté ou neutralisé ces derniers mois plusieurs leaders séparatistes. Mais le conflit et les exactions se poursuivent dans les deux régions anglophone. Les 1er et 3 mars dernier, l'ambassade des États-Unis au Cameroun a condamné dans 2 communiqués des violences communautaires survenues en Oua, dans la région du Nord-Ouest, ainsi que les informations faisant état d'un raid militaire à Ebam, dans la région du Sud-Ouest, et qui a entraîné des violences contre les civils. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Libye, le premier ministre désigné Abdel Hamid Deba a appelé au départ des mercenaires présents dans son pays. Il s'exprimait devant les députés réunis à Sirte, les exhortant à accorder la confiance à son gouvernement pour unifier le pays. D'après l'ONU, la Libye compte 20 000 mercenaires et soldats étrangers. L'avant-garde des observateurs internationaux est déjà sur place pour vérifier l'application de l'accord de cesser le feu conclu le 23 octobre entre les belligérants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Baptisé plan de sauvetage américain, le plan de relance économique de Joe Biden, soumis mardi à un examen final devant la Chambre des représentants, comprend des aides totalisant 1 900 milliards de dollars. Le point avec Eric Manirakiza.
Ce premier plan de relance de l'administration Biden apporte une aide aux Américains gagnant moins de 75 000 dollars par an et des couples mariés dont les revenus ne dépassent pas 150 000 dollars annuels. Ils recevront prochainement des chèques de 1 400 $ par personne et par personne à charge. Ce projet, déjà adopté par le Sénat, prolonge jusqu'au 6 septembre le versement d'allocations chômage additionnelles de 300 $ par semaine. Le projet de loi accorde des crédits d'impôt substantiels. Il prévoit 3 600 $ pour les enfants jusqu'à 5 ans et jusqu'à 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17 ans. Les écoles, de la maternelle au lycée, vont bénéficier d'une enveloppe de 126 milliards de dollars et 39 milliards seront consacrés aux crèches. Le secteur de la restauration, l'un des secteurs les plus affectés par les mesures de restriction pour contenir la pandémie, va bénéficier d'une enveloppe de 25 milliards de dollars.
Toujours aux États-Unis, le procès de l'ex-policier blanc accusé du meurtre de George Floyd a débuté mardi par la sélection des jurés. Le tribunal de Minneapolis a entamé cette procédure avec un jour de retard en raison d'incertitudes sur les charges pesant sur Derek Chauvin. Le 25 mai, ce policier blanc est resté agenouillé pendant près de 9 minutes sur le cou de l'Africain-Américain George Floyd. La vidéo de la scène avait entraîné des manifestations géantes contre le racisme et les violences policières dans le monde entier. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2,5 millions de morts dans le monde depuis son apparition en Chine en 2019. Plus de 117 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. La Chine a lancé un passeport numérique certifiant le statut sanitaire des voyageurs. Pour l'instant, l'application n'est pas obligatoire et est réservée aux Chinois. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent de lancer des systèmes similaires. Dans l'Union européenne, l'idée d'un passeport vert sera présentée par la Commission européenne le 17 mars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 1,5% au cours du dernier trimestre 2020, a annoncé l'agence de statistiques Statista. Cette hausse du PIB est principalement due au secteur industriel et commercial. Le pays continue à montrer des signes de rétablissement après avoir été durement frappé par la pandémie du coronavirus. En République démocratique du Congo, la GECAMINE veut freiner son déclin avec l'or bleu du cobalt, dont le pays est le premier producteur mondial. Elle veut acheter entre 15 000 et 20 000 tonnes de cobalt par an aux creuseurs sur une production nationale estimée à près de 78 000 tonnes en 2019. La GECAMINE est partenaire du Suisse Glencore qui a signé un contrat pour fournir du cobalt à Tesla, le pionnier des voitures électriques. Pour terminer, les prix du pétrole se sont repliés hier après avoir franchi brièvement le seuil des 70 dollars le baril, dopé par des attaques contre les installations pétrolières d'Arabie Saoudite et les limitations volontaires de production de l'OPEP. Le baril de Brent pour livraison en mai s'est replié à 68,24 dollars. Le baril américain de West Texas Intermediate pour avril a perdu 1,04 dollars pour finir à 65,05 dollars. Les deux contrats de référence évoluent à des niveaux proches de ceux d'avant le COVID-19.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. La CAF a annulé hier la CAN des moins de 17 ans alors que la compétition devait débuter samedi au Maroc. Les autorités marocaines ont en effet fermé leur espace aérien jusqu'au 21 mars inclus pour cause de COVID-19. Avec une vingtaine de pays, parmi les nations concernées font partie des pays qualifiés comme l'Algérie. Le comité d'urgence a pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées certaines des associations membres participantes, ainsi que le pays hôte, explique le communiqué de la CAF. Le comité d'urgence a aussi réhabilité le stade du 4 août de Ouagadougou que la CAF avait suspendu. L'équipe nationale burkinabé et son club qualifié pour la coupe CAF Salitas FC pourront donc recevoir leurs adversaires à Ouagadougou jusqu'au mois de juin prochain. Ligue des champions ce soir en Europe, deux matchs au programme à 20h temps universel. Juventus-Turin, FC Porto du Malien Moussa Mariga et Dortmund-FC Séville des Marocains Yassine Bounou et Youssef N. Nesri. Battus 2-1 à l'aller à Porto, les joueurs d'Andrea Pirlo pourront s'appuyer sur les statistiques pour se donner un peu d'espoir. Les Turinois se sont en effet imposés lors de chaque réception du club lusitanien en Ligue des Champions. 3-1 en 2001 et 1-0 en huitième de finale retour en 2017. Et en Ligue des Champions, justement, Porto reste sur 5 défaites lors de ses 5 derniers déplacements en Italie. Ici, en MLS, le français Wilfried Nancy, ancien bras droit de Thierry Henry, a été confirmé comme entraîneur du CF Montréal. C'est ce qu'a annoncé le club canadien du championnat nord-américain de football. Entraîneur adjoint à Montréal depuis 2016, Nancy, 43 ans, assumait l'intérim depuis le départ d'Henry, parti fin février pour raisons familiales. Et après une saison complète aux commandes du club québécois, Nancy a été un ancien défenseur du Sporting Toulon VAR en Ligue 2 française de 1995 à 2005. En 2020, l'Impact Montréal, rebaptisé CF Montréal, a été sorti en quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, la Confédération d'Amérique centrale et du Nord. et éliminés en barrage des playoffs de MLS à la fin de l'année. Les JO de Tokyo se dérouleront sans spectateurs venant de l'étranger en raison des craintes liées à la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'affirment des médias japonais, citant des responsables. Le 3 mars dernier, la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto a précisé qu'une décision serait prise idéalement avant le début du relais de la flamme olympique dans le pays, le 25 mars. Selon Kyodo News, le gouvernement japonais a conclu qu'il n'est pas possible de permettre à des supporters vivant hors du Japon d'assister aux JO en raison des préoccupations du public japonais concernant le coronavirus.
Merci, Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lydon, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad, où l'opposant Yahya Diallo Diérou, dont la maison a subi un assaut des forces de sécurité le 27 février, vit toujours caché, malgré la mort de sa mère et son fils durant cette attaque en N'Djamena. Il dit avoir toujours le moral et reste déterminé à empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 11 avril. Sa candidature a d'ailleurs été rejetée par la Cour suprême. Abdourahmane Dia a pu entrer en contact avec Yahya Diallo, qui promet de saisir les juridictions internationales.
C'est dur, c'est tout à fait extrêmement dur de voir des gens venir comme ça abattre celle qui vous a mis au monde. Mais sachant pertinemment que beaucoup de Tchadiens ont perdu leur maman, leur papa avec ce régime, je me dis quelque part que je dois avoir la même douleur que les autres. Les autres ont vécu assez longtemps avec la même douleur. Et quand à chaque fois que je pense à ma mère, je pense aussi au père d'Umnimwa, Mamzale d'Umnimwa, parce qu'il y en a beaucoup, nous ne sommes pas les deux, il y en a beaucoup. Donc je rejoins un peu toutes les familles endeuillées par des...
Alors, les autorités dégagent toute responsabilité dans la mort des membres de votre famille. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela?
Je crois que M. Déby a un penchant criminel qui ne lui permet pas de reconnaître des actes qu'il pose. Et ça, c'est sa nature. Comment mobiliser des chars, des blindés, des véhicules lourds de guerre, des milliers de soldats, hein, plus de 300 véhicules hein, qui a encerclé seulement juste une concession de 300 mètres carrés, et prétendre tirer sur des civils qui étaient dans la concession et prétendre ne pas endosser la responsabilité.
Je crois qu'est-ce qu'on vous reproche?
En réalité, on me reproche d'avoir porté ma candidature à la magistrature suprême du pays.
Et aujourd'hui, les autorités vous recherchent pour meurtre. Vous sentez-vous en danger?
Pour mettre, non, ils le savent très bien, c'est eux les criminels qui ont abattu ma mère, qui ont abattu mon fils, qui ont blessé 5 membres de ma famille. Les criminels, c'est Déby. C'est moi qui, d'ailleurs, qui dois porter l'affaire au niveau international pour que les despotes soient conduits devant la Cour pénale internationale pour avoir commis d'autres crimes, certainement, mais ces crimes, c'est au vu aussi de tout le monde. Dans un cadre politique, je crois que le monde entier a témoigné. Je crois que ce crime ne doit pas passer inaperçu.
Justement, j'allais vous demander ce que vous comptez faire, puisque votre candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée et vous êtes obligé de quitter votre domicile de N'Djamena.
Nous allons nous organiser avec mes camarades et aussi avec les leaders de la classe politique de l'opposition, et pour faire en sorte qu'une telle élection n'ait pas lieu. C'est notre ambition la plus ferme, je crois, avec l'appui de la communauté internationale. Si la communauté internationale cautionne ce type d'élection, je crois que le monde est mal parti.
C'était donc l'opposant tchadien Yahya Diallo qui vit en cachette depuis l'attaque de son domicile en N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Le Cameroun lance une nouvelle campagne contre les discours haineux et xénophobe dans les médias locaux et les réseaux sociaux. Cette campagne fait suite à la montée des publications contre certains groupes ethniques dans différents supports médiatiques. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
La campagne nationale de communication contre le discours haineux et xénophobe s'étend sur 3 mois. Elle est pilotée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussongue, président de la dite commission.
Le discours de haine et la xénophobie fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre.
Les sujets d'actualité politique, sportifs ou culturels virent très souvent aux insultes et au dénigrement de certains groupes ethniques. Des journalistes s'y trouvent parfois impliqués, comme lors de la récente affaire du contrôle de l'exécutif à la Fédération camerounaise de football. Armand Boyomo, de Zen Radio, à Sarmelima.
Les acteurs des médias ont outrepassé leur rôle qui était censé être celui d'informer et d'analyser la situation. Les unes de certains journaux étaient ronflantes. Le camp opposé était traité de tous les noms d'oiseaux.
Pour Citizen Initiative, une organisation de la société civile camerounaise qui œuvre pour la transformation sociale et le changement de comportement, il est important de sensibiliser les populations à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Ernesto Yene, coordonnateur de Citizen Initiative.
Vous pouvez être d'une tribu X et n'avoir rien à faire, ou rien à voir avec ce que certaines personnes de cette tribu-là font dans la gestion des affaires publiques. C'est cet amalgame-là qu'on voudrait enlever dans l'esprit des Camerounais.
Le ministre de l'administration territoriale a par ailleurs servi une sévère mise en garde à certains médias locaux qui, d'après lui, s'apparentent à Radio Mille Collines, en référence à une radio qui avait incité à la haine ethnique au Rwanda lors du génocide de 1994. Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale.
Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio Mille Collines. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu.
Depuis 2 ans, le gouvernement a également pénalisé les infractions sur l'outrage à la tribu ou à l'ethnie. Maître Pellerine Tchatat, avocate au barreau du Cameroun.
La loi de 2016 n'avait pas légiféré en la matière et celle de 2019 est venue donc corriger. En son article 241 nouveau, intitulé « Outrage à la tribu ou à l'ethnie », dispose « est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique.
La tenue d'un colloque national est l'une des activités phares de la campagne contre les discours haineux et xénophobes au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la démocratie sénégalaise mise à l'épreuve. L'arrestation du député Ousmane Sonko a plongé le pays dans les pires violences de ces dernières années. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été notés. L'opposant a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ses partisans dénoncent un complot visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Ils demandent aussi au président Macky Sall de dire clairement qu'il ne briguera pas en 3e mandat. Nous discuterons de la situation politique au Sénégal avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Le prix Mo Ibrahim 2020 pour un leadership d'excellence en Afrique a été décerné au président du Niger, Mahamadou Issoufou. Il devient ainsi le 6e lauréat de ce prix qui récompense d'anciens présidents africains qui ont renforcé la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Mahamadou Issoufou, au lieu de briguer un 3e mandat, va terminer ses 2 mandats le mois prochain et quitter le pouvoir. Les réactions à Niamey avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Beaucoup de Nigériens ont salué l'attribution de ce prix à leur président sortant, Issoufou Mahamadou.
Ce n'est que justice rendue au président Issoufou qui, de bout en bout, est resté cohérent avec sa promesse de quitter le pouvoir à l'issue de ses 2 mandats que la constitution de notre pays autorise. Vous voyez tous les efforts qu'il a fournis au cours de ses 2 mandats non seulement pour l'émergence de notre pays, pour le développement de la démocratie, la protection des libertés individuelles et ainsi de suite. Donc mon sentiment, un sentiment de fierté de voir la Fondation Mo Ibrahim récompenser les accomplissements, le leadership du président Issoufou par ses prestigieux prix.
Oui, en tant que Nigérien, je ne peux qu'exprimer ma joie et ma grande satisfaction de voir mon président recevoir ce prix Mo Ibrahim qui est tellement convoité par les chefs d'État africains. Et je pense que c'est un prix amplement mérité. Et nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux qu'il ait remporté ce prix-là.
Pour certains, cette distinction reste tout de même une grande surprise.
Pour nous qui vivons au Niger, le bilan de Issoufou est désastreux, calamiteux, d'abord en termes de politique publique. Et c'est pendant son règne que nous avons vu une amplification de l'État que sont la corruption, l'impunité, l'explosion des inégalités, le détournement des données publiques, l'enrichissement sur le bien commun, etc., etc. Et pour finir, vous avez bien vu que pour le processus électoral qui est en cours au Niger, Issoufou a tout fait, il est en train de tout faire pour influencer sa succession et qui nous a conduit aujourd'hui dans cette impasse politique dans laquelle nous vivons, où deux présidents se sont déclarés élus à l'issue du scrutin présidentiel du second tour du 21 février. Dans ces conditions, je suis quand même assez surpris qu'on me dise que le prix Mo Ibrahim a été attribué à Mahamadou Issoufou.
Les actions qui lui ont valu ce prix, le président Issoufou Mahamadou compte tout de même les poursuivre à travers la mise en place d'une fondation.
Il est sûr qu'après mon départ le 2 avril, après avoir passé le témoin, je continuerai mes actions dans la droite ligne de ce que j'ai fait pendant ces deux mandats. D'ailleurs, j'ai l'intention de mettre en place une fondation. Et cette fondation aura pour but la promotion de la démocratie, la promotion de la paix, la promotion du panafricanisme, le développement du capital humain et le climat.
Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et c'est la fin de ce journal à la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Pal. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Marquant le 7e anniversaire de l'invasion et de l'occupation de la Crimée par la Russie, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a affirmé dans un communiqué cette vérité fondamentale : la Crimée est à l'Ukraine. L'occupation par la Russie et la militarisation croissante de la péninsule de Crimée ont des implications bien au-delà des frontières de l'Ukraine, menaçant la sécurité commune du monde, a noté le secrétaire d'État Blinken. En effet, l'occupation a un coût humain important. Les autorités russes ont soutenu une campagne brutale de répression contre les Tatars de Crimée, les Ukrainiens d'origine et les membres d'autres groupes ethniques et religieux minoritaires en Crimée. Les autorités russes ont perquisitionné des mosquées et des maisons, expulsé des médias indépendants de la péninsule et infligé de lourdes peines de prison à ceux qui osent s'exprimer contre l'occupation. La répression russe a laissé les habitants de Crimée dans un état constant de peur, incapables de vivre librement leur vie. Le secrétaire d'État Blinken a appelé la Russie à mettre immédiatement fin à son occupation de la Crimée, à libérer tous les prisonniers politiques qu'elle détient injustement, à rendre le contrôle total de la péninsule à l'Ukraine. Il appelle également la Russie à mettre fin à son agression dans l'est de l'Ukraine. Les sanctions américaines contre la Russie en réponse à son agression dans l'est de l'Ukraine et à l'occupation de la Crimée resteront en place à moins que la Russie n'inverse le cap, a souligné le secrétaire d'État Blinken. Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la Crimée par la Russie. Les États-Unis saluent la nouvelle initiative de l'Ukraine, la plateforme de Crimée, qui vise à améliorer l'efficacité de la réponse internationale à l'occupation de la Crimée, à relever les défis croissants en matière de sécurité, à intensifier la pression sur la Russie, à prévenir de nouvelles violations de droits de l'homme, à protéger les victimes de la puissance occupante, à mettre fin à l'occupation de la Crimée par la Russie et à restituer le contrôle total de la péninsule à l'Ukraine. La plateforme de Crimée sera officiellement lancée lors d'un sommet inaugural à Kiev le 23 août 2021. Les États-Unis se réjouissent à l'idée de continuer à travailler avec l'Ukraine, ses alliés et partenaires, pour mettre fin à l'occupation de la péninsule de Crimée par la Russie et à son agression dans l'est de l'Ukraine.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.